Oui, bonjour Daniel Mermet, bonjour tout le monde. Je suis en train d'écouter l'émission sur la guerre d'Espagne. Ça m'a rappelé des souvenirs. Je suis très très émue, j'avais 12 ans à l'époque. Et ma mère, nous sommes d'origine espagnole. Ma mère recevait beaucoup de républicains espagnols qui passaient par Paris. Et j'ai assisté à deux manifestations pour l'envoi des armes en Espagne en criant « No pasarán ». Et ça, vraiment, cette émission-là, ça m'a remué, ça m'a reporté des années en arrière. J'ai maintenant 77 ans, mais c'est toujours pareil. Je n'ai rien oublié. Et après, ça a été notre tour avec les nazis, une fois que Franco a pris le pouvoir. Et tout ça, c'était que Blum n'avait pas voulu leur donner des armes. Et depuis ce temps-là, j'en veux aux socialistes, parce que vraiment, moi, j'ai jamais oublié. Allez, ciao.
Ce que vient de faire le peuple espagnol ne doit pas être pris comme une leçon, mais comme un zoom, comme un éclairage sur la capacité du peuple à passer à l'action, sur sa capacité à peser sur ses politiques. Le peuple espagnol, lui, l'avait fait en 1936, en se levant uni face à Franco. Mais les forces de l'argent avaient alors décidé de le châtier, de lui voler sa démocratie et sa république. Quelle belle récompense, 60 ans plus tard, dans une démocratie retrouvée, de s'unir et de vaincre. Ceci devrait nous donner des idées. Pour agir, s'unir, pour supprimer chômage et précarité, pour exiger une écologie unique, une culture riche dans le respect des différences. El pueblo unido est fort et se grandit.
Daniel, comme t'es un des rares à t'occuper encore des Tchétchènes, ce petit peuple qui nous emmerde à pas vouloir disparaître, eh ben on se permet de t'appeler de temps en temps pour te dire ce qu'on fait. Nous, c'est une petite asso, Marceau Dorilla, et là, on fait 3 jours de festival de films sur l'image des Tchétchènes au cinéma. C'est un festival qui a lieu au cinéma des cinéastes, 7 avenue de Clichy, les 18, 19 et 20 mars. Et ça s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de la déportation des Tchétchènes par Staline. Dieu merci, le Parlement européen vient de reconnaître qu'il s'agissait bien d'un acte de génocide. 60 ans plus tard, c'est bien. Il y aura des films inédits qui n'ont jamais été vus en France, qui sont des perles, qui ont été enterrées en temps de l'Union soviétique. Zelim Khan sur le Robin des Bois Tchétchènes, Le Nuage d'Or, qui passe en la nuit, un film sur la déportation, un film russe, fait par miracle pendant la perestroïka et vite enterré. Et puis ce soir, il y aura Sergueï Bodrov, le grand cinéaste russe, qui présentera son film, Le Prisonnier du Caucase. Samedi soir, un grand film de Konchalovsky, La Maison des Fous. Et c'est Glucksmann, André Glucksmann, qui animera le débat. Toutes les infos au cinéma des cinéastes ou sur notre site à nous, marceau.net. Merci de passer l'info, on espère vous y voir nombreux. Bonsoir.
Moi, je voudrais m'insurger contre l'opinion d'une dame qui a été exprimée hier. Bon, elle disait en gros que la tragédie de Madrid, bon, était certes terrible, mais qu'en Tchétchénie, s'en passait tous les jours et bon. Bon, comme si avant de souffrir pour les victimes espagnoles, il fallait comptabiliser toutes les autres. Non, moi je pense que elles ont le droit, ces victimes espagnoles, à une douleur entière, profonde et sincère. Et personne n'oublie tout le reste. Bon, d'ailleurs, cette façon de nous culpabiliser sans cesse, il y a le tiers-monde, il y a ceci, il y a cela. Moi, je trouve au contraire que jamais les gens n'ont été plus informés, plus sensibilisés et plus chagrinés par ce qui se passe. Alors, l'horreur est partout, d'accord, mais tous les médias qui se respectent et toutes les personnes qui se respectent parlent, discutent et ne sont pas d'accord avec ces horreurs.
Vaste débat sur le petit répondeur de la base, si j'y suis, que j'écoute de loin, que j'écoute d'ici, depuis Kigali, au Rwanda, à quelques jours des élections, mais je rappelle qu'on peut très bien être au Rwanda et voter par procuration. Voilà. Donc, au Rwanda. Au Rwanda, il y a une question très embarrassante à laquelle vous êtes confronté, c'est où étiez-vous il y a 10 ans? C'est très agaçant comme question, surtout pour les journalistes venus nombreux de partout pour préparer le 10e anniversaire du génocide du Rwanda. Où étiez-vous il y a 10 ans, alors que les massacres commençaient? Eh bien, les Blancs s'en allaient, Français, Belges, diplomates, humanitaires, tout le monde fuyait le Rwanda, en abandonnant les confrères, en abandonnant les amis, en abandonnant le personnel. Certains ont vu dans leur rétroviseur, en fonçant vers l'aéroport, leurs propres proches se faire couper en morceaux par les tueurs et leurs machettes. Et puis à la suite, pendant 100 jours, les responsables de la communauté internationale ont fait tout pour ne rien faire. Bien sûr, il faut le dire et le redire, le génocide du Rwanda, c'est d'abord l'affaire des Rwandaises et des Rwandais, mais c'est aussi une tragédie qui concerne l'ensemble de l'humanité, chacun d'entre nous, au moins parce qu'il s'agit d'un génocide. En vérité, des journalistes, il y en avait, pas beaucoup, c'est vrai, mais suffisamment pour que nous sachions tout en temps réel sur ce génocide, un génocide en direct, face auquel, encore une fois, nos hauts responsables n'ont pas moucheté. Alors, au moins pour cet abandon, au moins pour cette trahison, sinon cette complicité de génocide, il faut aujourd'hui impérativement répondre à une seconde question. Qui a tué l'avion? C'est une question qu'on vous pose ici. Qui a tué l'avion? Qui a abattu l'avion où le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, a trouvé la mort, ce qui, comme vous le savez, a déclenché la tragédie. La question, en fait, se pose depuis 10 ans. Elle a été oubliée dans un tiroir et elle ressort très opportunément pour ce 10e anniversaire. Alors, qui a tué l'avion? L'actuel président du Rwanda, les extrémistes Hutus, les Hutus modérés? C'est possible. Les Belges, les Français, on ne sait toujours pas. La question est toujours là. La réponse du lieutenant général Dallaire, souvenez-vous, c'était de dire « c'est les gros joueurs ». Il disait ça avec son accent québécois. Il voulait dire par là les principaux acteurs engagés dans cette très très sale histoire. Espérons que ce 10e anniversaire permettra de faire avancer la vérité, parce que il y a ces lâchetés passées et il y a ces victimes, il y a cette mémoire, et il y a aussi les rescapés que nous rencontrons, que nous retrouvons et qui souffrent. C'est une souffrance. Vraiment, là, on peut employer sans abus le mot indicible. Évidemment, lorsqu'on saura qui a tué l'avion, on n'aura pas pour autant la réponse au sens de la tragédie que le Rwanda a connue il y a 10 ans. Ce génocide qui s'est produit ici, dans ce pays, et dont les blessures ne sont pas refermées. On avait appelé l'une de nos séries Impossible oubli, Impossible justice. C'est un travail énorme qui va durer encore très longtemps contre l'oubli et pour la justice au Rwanda. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, dans la base, si j'y suis, en France, on va partir pour Bagdad. Et oui, là aussi, anniversaire oblige, mais on va découvrir un genre d'intégriste, un genre de fondamentaliste, qui ne sont pas ceux qu'on met toujours derrière ces mots, intégriste et fondamentaliste, surtout lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient. Bagdad donc aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages, je rappelle, le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37, et un seul mot d'ordre, votez.
Oui, bonjour à toute l'équipe de la base, si j'y suis, de Daniel Mermet, Boris Paris. Voilà, nous sommes à 3 jours du premier tour, et on n'arrête pas de nous rabâcher entre les petites... joute verbale de différents politiques, qu'il y aura un taux de participation excessivement faible. Je tiens à rappeler quand même que dans le monde, des gens meurent pour avoir le droit de vote, et que on a les élus qu'on mérite. Et que c'est pas le tout de critiquer un gouvernement, mais si on ne vote pas, je crois qu'on a vraiment le droit de se taire, surtout quand on va à la pêche. L'État n'a pas seulement des devoirs envers vous, on a aussi des devoirs, et je crois que 30 secondes tous les 2 ans, par week-end, c'est pas beaucoup payé, quoi. Voilà. Au revoir à tous.
Salut, répondeur. Une petite piqûre de rappel. Espagne, 11 mars 2004, attentat qui fait 200 morts et plus de 1000 blessés. 3 minutes de silence pour leur mémoire. Et le peuple vote contre le mensonge des gouvernants sur les origines de l'attentat. France, août 2003, canicule qui fait 15 000 morts. J'attends toujours les 3 minutes de silence pour leur mémoire. Et j'attends que le peuple vote dimanche contre le mensonge de nos gouvernants qui ont mis des mois à admettre la catastrophe nationale que les pompes funèbres, entassant les corps dans les hangars, annonçaient. Je t'embrasse, répondeur.
8 avril 1946, suite à la guerre et sous l'impulsion du Conseil national de la résistance, est votée la loi de nationalisation des entreprises électriques et gazières en France, créant EDF et GDF, établissement public qui devait servir donc à développer le réseau électrique et gazier et à faire en sorte que cette marchandise, qui n'est pas tout à fait une marchandise comme les autres, l'énergie, soit accessible sur tout le territoire français au même tarif pour tout le monde. Ça s'appelle la péréquation tarifaire. Donc 8 avril 1946, création d'EDF-GDF. 8 avril 2004, date anniversaire, le gouvernement Raffarin décide de déposer au Conseil d'État le projet de privatisation EDF-GDF. Et donc ce jour-là, les agents EDF-GDF seront en grève. Et on est quelques-uns, agents EDF-GDF, un petit peu agacés par ce que nous pond en ce moment l'ultralibéralisme au pouvoir, à vous demander gentiment de ne pas trop nous en vouloir si pour une fois, lors des mouvements de grève qui vont avoir lieu, les agents EDF manœuvreront le réseau de façon à ce que le courant ne puisse plus passer. C'est une chose qu'on ne fait pas d'habitude, très rarement, de manière très ciblée, parce que c'est pas dans notre culture de couper le jus. Mais là, on a plus le temps de réfléchir comment, pourquoi et où. Mais ne vous plaignez pas trop si vous n'avez pas de courant. Dites-vous que c'est pour le bien de toute la nation. Allez, à ciao.
Français, allez voter. Allez voter. Ne vous laissez pas faire. Allez.
Sont tout de même culottés et la bande de Raffarin, orchestrée par Sarko et son troupeau de vaches à traire, là. Après nous avoir grossièrement ignoré, ils osent benoîtement, maintenant, nous faire avaler qu'ils ont toujours été honnêtes et respectueux du peuple français, et qu'ils nous ont toujours dit la vérité. Non mais je les trouve d'un cynisme rarement égalé. Ils méritent que l'on méprise ces gens. Alors dimanche, quand je vais aller voter, quand on me dire « Citoyen Olivier, votez !» C'est sûr que je vais le mettre, mon bulletin, 100% du bon côté. Ah ouais, dimanche, je serai espagnol. Yéba ! Allez, courage, on continue, l'avenir nous appartient. C'est droit devant.
Merci beaucoup de nous avoir changé la Harley Davidson par le vélo du facteur de Jacques Tati.
C'est l'Amérique de la Bible ici.
Yes, absolutely.
Absolument.
You can't throw a stone without hitting a church.
Ici, vous pouvez pas jeter un caillou sans que ça tombe sur une église.
Go out the front door. You can hit one here. You walk to that one. You can throw another one.
Sans ici, vous allez en voir une et puis vous continuez plus loin. Il y en a encore une autre.
America was founded on God.
L'Amérique a été fondée selon les principes de Dieu.
It was established by God.
Ça a été établi par Dieu.
Hélicoptère. Oh, allez, hop. Américains,
attention.
Allez, les Américains,
là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, Guy Vanctil, Guillemette Fort, Bagdad, Florida.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, ça y est, on est à 2 miles de Bagdad. C'est écrit devant moi, Bagdad 2. Alors, à quoi ressemble le paysage? Eh bien, je vois devant moi une croix lumineuse, une croix en néon. On est à la limite de la Floride et de l'Alabama. Et oui, c'est Bagdad, Florida. C'est là que nous allons essayer de couvrir la guerre. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de raconter la guerre vue de cette toute petite ville de 1500 habitants qui s'appelle Bagdad? On peut pas en dire plus pour l'instant parce qu'on voit pas grand-chose. On ressemble tout à fait aux reporters qui font la couverture de la guerre autour de Bagdad. Ils voient pas grand-chose, ils voient quelques lumières, ils voient quelques indications. Pour l'instant,
c'est l'obscurité totale. On va pas tirer comme conclusion que l'électricité est coupée dans cette direction-là, mais pour l'instant, c'est la quasi-obscurité devant nous. Voilà, donc on va essayer de s'approcher de Bagdad. Alors voilà, on change de climat, on change de vitesse. On a quitté New York City, c'est-à-dire Sodome et Gomorre, souvenez-vous, Lisa, la stripteaseuse, pas seulement stripteaseuse, mais noire aussi, mais oui, est-ce que vous avez bien compris, et droguée ex-junkie, anti-bouche à fond, et surtout, Lisa est une femme mort. Oui, au sud, nous allons au sud des États-Unis, tout ça pose des quantités de problèmes. Par exemple, pour un immense prédicateur comme Jerry Falwell, très très important, un homme très très influent, eh bien le 11 septembre, je le cite, le 11 septembre, c'est un châtiment divin infligé à l'Amérique pour sa tolérance à l'égard des féministes, des gays, des libertaires et de certains juges. Voilà ce qu'un des hommes les plus écoutés, oui, des plus écoutés aux États-Unis, a pu déclarer. Un autre, son collègue et confrère, Pat Robertson, un des hommes les plus influents aux États-Unis et un membre important du Parti républicain, disait ceci. Il n'y aura jamais de paix mondiale avant que la maison de Dieu et le peuple de Dieu n'assume le rôle de leadership dans le monde. Je répète, il n'y aura jamais de paix mondiale avant que la maison de Dieu, c'est-à-dire les États-Unis, et le peuple du Dieu, c'est-à-dire les Américains, n'assument le rôle de leadership dans le monde. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'en nous dirigeant vers le sud de la Bible Belt, de la ceinture de la Bible, le sud des rednecks, est-ce que ça veut dire que nous allons chez les fondamentalistes, évangélistes, etc. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir, parce que c'est pas si sûr et pas si caricatural et pas si excessif que ça. Bienvenue à Bagdad, Florida.
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
Voilà.
Le barbier.
Nous y voilà. Ça, c'est le barbershop de Bagdad. Le barbier de Bagdad. Best haircut in town. On découvre cette petite ville, toute petite. Sur le panneau écrit Bagdad, il y a un ruban jaune, c'est-à-dire un ruban qui est le symbole du soutien aux armées. Alors, ça, c'est la route des quatre églises. Il y a Bagdad First Assembly of God. L'église est éclairée, c'est samedi soir. Please pray and support our troops and our president. Voilà, on soutient les troupes et le président dans cette église-là. On a fait à peine 100 mètres. Voilà, the First Baptist Church of Bagdad. La première église baptiste de Bagdad. Et sur le panneau de présentation éclairé, là, dans la nuit, on peut lire « Bagdad
is praying for Baghdad.
Laissez aller le flot de l'amour de Dieu de Bagdad à Bagdad.
Bagdad to Bagdad, avec deux orthographes différentes. Parce qu'en anglais, Bagdad, il faut le rappeler, ça s'écrit B-A-G-H-D-A-D. Et donc, on joue sur les mots, là. Alors, on continue sur la route des quatre églises. 1500 habitants, quatre églises. C'est ce qui est le plus éclairé, hein. Pour l'instant, ce qu'on a vu le plus éclairé, c'est les églises. Voilà, là, j'aperçois la troisième église. First United Methodist Church, Baghdad, Florida. Elle est très jolie, c'est une petite église en bois qui a l'air très jolie. C'est le révérend Gary Jones qui est en charge de cette église. Et voilà la quatrième église, très éclairée, une croix avec une espèce d'effet de lumière. First Pentecostal Church of Baghdad. Voilà. Donc en 300 mètres, quatre églises pour 1500 habitants. Et voilà, on arrive enfin à Baghdad, Florida. Et ce qui nous frappe tout de suite, c'est les églises très très nombreuses dans cette bourgade, dans la nuit, et dans les arbres. C'est assez sympathique pour ce qu'on peut en voir. On a quitté une de ces routes américaines, une autoroute, genre d'autoroute, comme ça, comme on en voit partout, qui est très commune. Mais là, c'est assez beau, visiblement. Alors évidemment, nous, on est frappés par les églises, mais c'est bien parce qu'on est des Frenchies. God bless you all. God bless America. In God we trust. Et oui, God est américain. 90% des Américains affirment croire en Dieu. Sans doute le plus fort taux de croyants au monde. 80% des Américains se définissent comme chrétiens, protestants, catholique, ça on va donner des précisions, mais 80% c'est quand même très impressionnant. 60% des Américains affirment prier tous les jours, et il y a dans l'église protestante 4000 dénominations chrétiennes différentes. L'église catholique représente 23% de la population, c'est-à-dire 64 millions de catholiques aux États-Unis. Et si on regroupe toutes les églises protestantes, eh bien on obtient à peu près le même total. Mais les églises protestantes se divisent en baptistes, méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, épiscopaliens. Et voilà, la religion, les églises sont quelque chose de très important aux États-Unis. C'est pas une image qu'on a si couramment, nous autres d'ici, de ce côté de l'Atlantique, nous qui avons une religion principale, qui est la religion catholique, contre laquelle s'est construite notre histoire récente, celle de notre République, et puis voilà tout, et puis nos pratiques religieuses s'affaiblissent chez nous, alors que c'est l'inverse aux États-Unis. L'Église joue un grand rôle. J'évoquais les figures de quelqu'un comme Falwell ou Pat Robertson, qui sont eux des évangélistes, qui sont des télévangélistes et qui ont une importance considérable, on va le voir, dans l'opinion américaine, dans la conscience aujourd'hui des Américains, et aussi dans par rapport à la politique conduite par les États-Unis. Mais on n'en est pas là pour l'instant encore. On voudrait savoir un peu ce qu'est ce village, cette bourgade, on va dire, où nous arrivons, Bagdad. Pourquoi ça s'appelle Bagdad? Eh bien, dans cette Amérique supposée toujours amnésique, où voilà, on n'a pas de mémoire, on efface tout au fur et à mesure. Voilà trois personnes dans une maison au cœur de cette ville, de cette bourgade, dans les arbres. Patricia Dassaro, Charles Dassaro, son époux, et Christine Walsh. Voilà trois personnes dans cette maison, les bourgeoises, on se dirait, dans un roman de Carson McCullough, vous vous souvenez, Reflet dans un œil d'or. Voilà. Une maison à un étage, c'est une des rares maisons à un étage. À l'extérieur, deux drapeaux, un drapeau américain et un drapeau britannique. Tout un symbole en ce moment. Et à l'intérieur, ces personnes qui conservent tout ce qu'ils peuvent trouver sur cette petite bourgade
de Bagdad. Les objets, les meubles, toutes les traces les plus petites, c'est presque une hypermnésie par rapport à une amnésie réputée américaine. Ici, on conserve tout. Ici, on est très érudit. Ici, on est très accueillant et très tranquille.
My name is Christine Walsh.
Je m'appelle Christine Walsh.
Et vous êtes une habitante de Bagdad?
Yes.
Alors, expliquez-nous, d'après vous, pourquoi cette ville ou ce village s'appelle Bagdad? J'hésite entre ville et village parce que c'est 1500. Pourquoi ce nom?
In the 1830s,
dans les années 1830,
the man who established Baghdad,
l'homme Joseph, qui a créé Bagdad,
yes, Joseph Forsyth.
Joseph Forsyth,
who was originally from New England,
était originellement de Nouvelle-Angleterre,
came to this area,
est venu ici,
and we're told that because of the two rivers here,
et on nous a dit que parce qu'il y a ici deux rivières,
he was reminded of the geography,
ça lui a rappelé la géographie,
of Baghdad,
de Bagdad,
yes, in Iraq.
En Irak,
and if you look on a map,
si vous regardez sur une carte,
You can see, I think, rather clearly why he made that association.
Vous pouvez voir vraiment clairement pourquoi il a eu cette association d'idées.
Yes, because the Saudi Arabian Peninsula.
Parce que la péninsule d'Arabie Saoudite.
South of Baghdad in Iraq.
Au sud de Bagdad en Irak.
There is a similarity to what we have here in miniature.
Il y a une similarité avec ce qu'on a ici, mais en miniature.
Eh bien alors, il y a d'autres Bagdad aux États-Unis.
Yes, there's more than one. There's
oui,
four.
Il y en a plus d'un. Il y en a quatre.
I believe there's one in California.
Je crois qu'il y en a en Californie.
There is a Baghdad in Arizona.
Il y a un Baghdad en Arizona.
Ça, c'est Charles qui parle, hein, oui. En Arizona aussi.
The settlers in 1880 left the Baghdad here in Florida and moved to Arizona.
Ceux qui s'étaient établis ici en 1880 sont ensuite quitté la ville de Bagdad ici et sont partis en Arizona.
And named their new town Baghdad.
Et ils ont appelé leur nouvelle ville Bagdad.
And I'm not sure where the other one is. They're all small.
En tout cas, je sais qu'elles sont toutes petites.
Saddam does the work of the devil.
Saddam fait le travail du diable.
Oui, vous souriez, bande de Français, mais on en est sûr ici. On en est sûr en Floride, en Alabama, dans toute la région de la ceinture de la Bible. Saddam, c'est Satan. Ça, d'ailleurs, c'est un peu les mêmes mots. Et en matière de diabolisation, ici, on en connaît un rayon. Alors, après cette première rencontre avec la famille d'Assaro et Christine Walsh, eh ben, on va au Waffle House. Waffle House, c'est l'endroit le plus calamiteux de la gastronomie planétaire. Mais les gens sont adorables, c'est les gens qui servent sont très gentils. Et alors c'est samedi soir, l'Amérique, Eddie Mitchell, la fille du motel et tout ça. Alors effectivement, on va dormir dans un motel et le lendemain matin, eh bien on se réveille, c'est dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin à côté de Bagdad, Florida? Eh ben, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on allume la télé.
Terrorism is the planned, organized use of fear as a weapon.
Where will terror strike next? Ça, c'est un des ouvrages de ce prédicateur de Law Factor sur cette chaîne, qui est disponible aussi en coffret, en CD, en vidéo. Et il fait sa pub au milieu de son prêche. C'est à la télévision, dimanche matin, en allumant simplement, en appuyant sur le bouton. Voilà ce qu'on trouve, mais vraiment au réveil.
To order online, just log on to kcm.org or call toll free.
Get low prices on quality tires now at all four of the...
Voilà le réveil en religion sur la télévision américaine le dimanche matin. Il y a des dizaines et des dizaines de stations, de chaînes de télévision qui ne font que de la diffusion de prêches évangélistes.
plus de 1000 stations de radio ne diffusent que des programmes religieux, et c'est des entreprises qui marchent très 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 bien avec ces prêcheurs qui ont tous le même look, très très bien habillés, très élégants, très marchands de voitures neuves. Et comme on s'adresse souvent à des gens d'un certain âge, aux seniors, alors c'est des messieurs bien bien peignés, en bonne forme, mais qui ont de la bouteille et qui ont ce talent extraordinaire, ces formidables camelots de Dieu que sont ces prêcheurs qui ont été popularisés par le cinéma depuis très très longtemps et qui s'adressent visiblement directement à la moelle épinière des téléspectateurs. Je suis un tout petit peu excessif. C'est intéressant d'évoquer rapidement ce qu'est la religion aux États-Unis, ce qui nous surprend toujours. La constitution des États-Unis fait des États-Unis un pays absolument laïque, enfin séculier, et la religion est une affaire privée, une affaire de liberté. Il y a une très grande liberté de pratique religieuse, mais peu à peu, c'est vrai que surtout depuis 30 ans où on assiste à une lente dérive puritaine, si l'on peut parler de, on ne peut pas parler de religion d'État, il faut dire que les États-Unis s'affirment bien comme un État de religion. Et c'est le cas, c'est visible, c'est flagrant dans une région comme celle-là. Dimanche matin, la télé, on zappe.
I personally believe that if I get a chance to watch videotapes of things that happened from the Bible, or bring out a DVDs or whatever the Lord's got in his library up there.
Jim Shelter, pastor, Campus Church, Pensacola, Christian College. Et à Pensacola, et ce révérend, ce pasteur, prêche. Mais ce qu'il faut voir, c'est en face de lui, la salle. La salle, c'est une immense salle de spectacle qui contient, comme ça à l'œil, 3000, 5000 personnes. On est dimanche matin dans le sud des États-Unis.
From Hallmark Hall of Fame and John Grisham,
I says verse 13 through 14 and then verse 29. Let's read. Christ has redeemed us.
Deux stations plus loin, j'ai appuyé deux fois sur le bouton et voilà une autre église. C'est la même technique à chaque fois. Là, c'est une église noire, mais c'est le même pasteur qui bouge, qui se met en scène. Et lui est très élégant, très bien peigné, très bien habillé. Là, c'est une chemise rose et une cravate rose. Mais c'est la même mise en scène et c'est les mêmes arguments.
It means what? A falling short.
They trained with their chemical protective overgarments on.
And when she gave to God, when she gave to the man of God.
Encore une autre chaîne. Encore une autre église, encore un autre prêcheur, celui-là avec des beaux cheveux blancs impeccablement brochés, et une petite moustache blanche, un nœud papillon, et il avance dans un décor très luxueux. Et là, on aperçoit la salle de téléphone où on peut téléphoner pour avoir du réconfort et des conseils. C'est extraordinaire. C'est un standard. Il y a 100 personnes qui répondent à tout, évidemment, qui ont répondu à tout.
The receiver and the cable system will put us on free. How can you say no to something like that?
J'appuie sur un autre. Voilà un autre prêcheur. Cette fois, c'est une église noire.
And God is saying, turn her loose. Don't fight that battle no more. That's why you catching all what you...
That's right. Giving is one sure way of getting God's attention. No, you can't buy America. No, you can't buy healing. No, you can't buy...
Good to have you.
Hello, morning.
Good morning.
Good morning. Good morning.
Alors c'est une petite église, c'est l'église de Bagdad. Oui, l'église de Bagdad est en train de chanter, le pasteur, avec des enfants du cœur qui ressemblent à des anges de cartes postales en blanc avec des cols bleus comme ça, sous la croix, avec des fleurs, le piano à gauche, le drapeau des États-Unis et des fidèles qui sont là et qui se recueillent avec les bibles, les livres saints bien rangés, des gens de toutes conditions, mais l'extraordinaire c'est qu'on est à Bagdad en Floride. Là c'est la quête, il y a des gars qui circulent. C'est quelle église ici? Je comprends jamais bien les nuances.
C'est
Baptist Church.
First Baptist Church.
Après avoir regardé tous les évangélistes sur les chaînes de télévision à l'hôtel, j'en ai compté au moins 8, mais j'ai été obligé de partir parce que il y avait l'office, il y avait le culte à la First Baptist Church où nous sommes, et c'est difficile de choisir. Hier soir, en arrivant à Bagdad, on a compté 4 églises. Ben on s'est trompé, c'est beaucoup plus que ça. Il y en a 6, 8, 10, on ne sait pas exactement le nombre. Je rappelle que il y a 1490 habitants dans cette bourgade. Alors là, la First Baptist Church, si on regarde, c'est vraiment les gens des physiques qui rappellent tout à fait les tels qu'on représente les premiers immigrants aux États-Unis, enfin d'Europe, la bonne Europe, l'Europe blanche évidemment. Mais c'est très étonnant. Et je disais tout à l'heure que selon le premier amendement de la Constitution, l'État américain, il y a une séparation de l'Église et de l'État avec une totale liberté religieuse. Mais dans les faits, depuis une trentaine d'années, ce principe régresse. Et il y a, on va le voir, une interférence entre... On a connu ça chez nous, puis on le connaît encore largement, entre l'Église et le politique. L'Église influence, fait pression, manipule le politique, et en revanche, évidemment, le politique utilise, instrumentalise le religieux, les religions, les églises. C'est une très vieille affaire. Pourquoi on s'intéresse beaucoup à ça? C'est parce qu'on a beaucoup parlé de djihad. On a parlé du djihad de Monsieur Bush, de la croisade de Monsieur Bush, et on n'a pas manqué de mettre en miroir l'islam politique et ce qui est maintenant le diable, qui va devenir le diable et qui cherche à être le diable pour les États-Unis. On va voir que c'est pas aussi simple ni aussi facile que ça, parce que dans une église comme celle-là, la First Baptist Church par exemple, c'est des braves gens du coin qui trouvent là un refuge, un endroit de solidarité où on se retrouve tout simplement, tout bonnement, le dimanche matin. On a vu devant votre église, Bagdad, prie pour Bagdad. Vous avez prié pour Bagdad?
I pray for both the Baghdads.
Je prie pour les deux Bagdad.
Because we have protectors here and we're not so much into physical danger.
Parce qu'ici on est protégé, on n'est pas menacé physiquement comme ils le sont là-bas.
Right. And I believe they have a lot of spiritual danger too that they need to get corrected.
Ils sont aussi en danger spirituel et ils ont besoin d'aide pour ça.
Quel danger spirituel?
Well, if they're not serving the true God, they're in big trouble.
S'ils se trompent de Dieu, ils sont vraiment en danger.
Well, we know there's only one God.
Nous savons qu'il y a seulement un Dieu.
But some of them don't know the one true God.
Mais certains d'entre eux ne connaissent pas le vrai Dieu.
Vous pensez à quoi en voyant la guerre là-bas?
That's a shame we have to do that again, because I remember World War II very well.
C'est vraiment, c'est honteux qu'on ait dû faire ça encore, parce que moi je me souviens encore de la Deuxième Guerre mondiale.
And the Vietnam War, and
the Korean War. Je me souviens de la Corée.
And the Gulf War.
Et je me souviens de la Première Guerre du Golfe.
It does seem a shame that we have to go through this again.
Quelle honte qu'on doive encore passer par là.
But since we do, I'm glad we have a good, strong president that'll lead us forward and get through it.
Mais puisqu'on le fait, je suis contente qu'on ait un président qui soit fort pour nous conduire à travers ça.
Vous pensez qu'il a raison?
I don't know what the right is, but the people that know more than I do decide that's what we need to do, and I believe that.
Mais des gens qui en savent plus que moi ont décidé que c'était ce qu'il fallait faire.
Vu d'ici, vu comme ça, en écoutant cette brave dame à la sortie de l'office, on comprend pourquoi George Bush affiche son côté born again, son côté religieux, la prière un peu partout. C'est parce que il y a ce fond, c'est pas seulement un fond, cette expression religieuse partout et de façon croissante aux États-Unis. Bush n'est pas W. Bush le fils n'est pas le premier à utiliser la religion ou à être proche de la religion. Nixon l'a fait, Carter, souvenez-vous, Carter, Reagan lui-même avec sa majorité morale, la moral majority, mais on est quand même loin du temps où Kennedy, Robert Kennedy, John Kennedy plutôt, catholique d'ailleurs comme son frère, affirmait haut et fort qu'en aucun cas ses convictions religieuses n'influeraient sur ses décisions politiques. Depuis une trentaine d'années, peu à peu, le religieux et le politique se mêlent et s'entremêlent aux États-Unis. On voit que avec des braves gens comme ceux-là, George W. Bush a un bel avenir. Le pasteur. On est étonné de voir autant d'églises pour un si petit village.
Yes. Santa Rosa County.
Oui, le comté de Saint-Rosé.
Per capita has more churches than any other place.
A plus d'églises par habitant que n'importe où ailleurs.
It was in the Guinness Book of World Records.
Oui, on avait été dans le livre des records pour ça.
Vous êtes dans le livre des records des églises.
Not Baghdad itself, but Santa Rosa County.
Mais tout le comté.
Vous dites que vous priez Bagdad, vous priez pour Bagdad. Ça veut dire quoi, hein, concrètement?
Well, we pray one for our people, the United States, the soldiers over there.
On prie d'abord pour les nôtres, nos soldats.
Then we pray for the Iraqi people.
Ensuite, on prie pour les Irakiens.
We'd love for them to have the freedom that we have.
On aimerait qu'ils aient la liberté qu'on a ici.
To worship.
La liberté de culte.
To live.
De pouvoir vivre.
Mais est-ce que vous soutenez la guerre?
I support what the United States is doing.
Oui, je soutiens ce que font les États-Unis.
Et vous soutenez votre président?
Yes, I support the president.
Oui, oui.
Votre président est born again. Born again, pourquoi? C'est parce qu'on renaît?
Yes, it's just like a new start. Just like
c'est comme un nouveau début.
Many people, it's nothing foreign. Everybody, you know, would like to begin again here.
Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir redémarrer comme ça, une nouvelle vie.
It means to know Jesus Christ as your Savior.
Ça signifie qu'on accepte que le Christ est notre Sauveur.
Where Christ comes in.
Et le Christ entre en nous.
Into our heart.
Dans notre cœur.
Repent of our sins.
Et on se repentit de nos péchés.
He forgives our sins.
Il nous pardonne nos péchés.
Dimanche matin à Bagdad, USA, ça se passe comme ça, sur la pelouse, devant l'église, le soleil, les gros arbres, les images de l'Amérique paisible, je dis pas éternelle, mais paisible en tout cas. C'est étonnant ce que dit ce pasteur, parce qu'on nous affirme que la plupart des églises des États-Unis se sont prononcées contre la guerre. Seule une mouvance évangélique, la South Baptist Church, SBC, s'est prononcée en faveur de la guerre en Irak. Et cette mouvance est importante puisqu'elle représente 30% de la population des croyants. 16 millions de membres. C'est important, mais on voit
que ben là ce pasteur-là, en tous les cas de la First Baptist Church, lui est favorable à, enfin soutient, c'est pas tout à fait pareil, soutient la guerre. Là, on fait trois pas, on traverse la pelouse avec des gens habillés beaux, le parking, les belles robes, les beaux chapeaux, les beaux sacs à main rutilants, et on va simplement dans l'église d'en face. C'est Assembly of God, vous avez compris, et ça s'appelle effectivement l'Assemblée de Dieu.
Be honest with you.
Pour être honnête avec vous,
we live in a world that is full of evil.
On vit dans un monde où le diable est partout.
I know in my heart.
Parce que je sais au fond de mon cœur.
That back in 9/11.
Que si on remonte au 11 septembre.
Everyone was American.
Tout le monde était américain.
And in my views, it hasn't changed.
Et pour moi, ça n'a pas changé depuis.
So the only way that we can deal with it now.
La seule chose qu'on puisse faire maintenant.
Is to understand that we are all one in a way.
Et de comprendre que tous on ne forme qu'un.
And that God loves us.
Et que Dieu nous aime.
And Saddam and the rest of the men that
Saddam,
were there.
Les autres qui sont là-bas.
They're evil.
Ce sont des représentants du diable.
To kill your own people.
Ils tuent leurs propres gens.
To destroy things.
Ils détruisent.
Et donc vous pensez que Saddam c'est le diable?
From my thoughts.
Oui,
from what the word of God has to say.
Et
yes,
d'après ce que disent les textes, absolument. Oui, oui. Mm-hmm. Absolument diabolique.
Saddam is absolutely evil because
Saddam est absolument diabolique.
Satan doesn't do these things.
Parce que Satan ne fait pas ce genre de choses.
Without the help
sans l'aide
of someone.
De gens sur cette terre.
Jesus said you serve one or two masters.
Jésus a dit qu'on sert un des deux maîtres.
You will love the one and hate the other.
On va aimer l'un et détester l'autre.
You will love Jesus.
Tu vas aimer Jésus.
And hate the devil.
Et détester le diable.
Or you will love the devil.
Ou alors tu vas aimer le diable.
And hate Jesus.
Et détester Jésus.
C'est pas les deux.
One of the two.
Ça va être l'un des deux.
And Saddam does the work of the devil.
Et Saddam fait le travail du diable.
Et Bush fait le travail de Dieu.
Bush is doing, our president is doing what he believes is right in his heart.
Bush est en train de faire ce qu'il croit au fond de son cœur qui est la chose à faire.
America was founded on God.
L'Amérique a été fondée selon les principes de Dieu.
It was established by God.
Ça a été établi par Dieu.
And I believe in my heart that each and every
cœur,
one of us
que chacun d'entre nous
we're either or.
Ouais,
we either love the Lord
et, ou dans un camp ou dans l'autre.
Love
on aime Dieu et on déteste le diable ou on aime le diable et on déteste Dieu.
Mais vous pensez qu'actuellement l'Amérique se bat, fait une croisade pour le bien?
I believe it absolutely is. Crusade basically to liberate Iraq so
oui.
Iraq can run
oui.
its own country.
Oui, une croisade pour libérer l'Irak.
America has always tried to help those.
L'Amérique
that
a toujours essayé
themselves.
D'aider ceux qui ne pouvaient pas s'aider seuls.
Saddam is a dictator.
Saddam est un dictateur.
Dictators no different than Hitler.
Un dictateur qui a rien de différent d'Hitler.
Is the world glad that America and a bunch of other ones got rid of Hitler?
Est-ce que le monde est content que l'Amérique nous ait débarrassé d'Hitler?
Saddam mm-hmm. is no different than Hitler.
Saddam n'est pas différent d'Hitler.
He is a dictator just like Hitler was.
C'est un dictateur tout comme Hitler l'était.
He murdered millions of Jews.
Il a tué des millions de Juifs.
What's the difference between that and murdering
Quelle est la
thousands
différence
and thousands
entre ça
of Iraqis?
Et tuer des milliers et des milliers d'Irakiens.
I think it's a crusade that
ouais.
we should all do.
Mm-hmm.
We should all stand together.
Oui, c'est une croisade qu'on devrait tous faire et on devrait être unis là-dedans.
Mm-hmm. I really wish France would stand up and side.
J'aimerais bien
with
que la France soit à nos côtés
the rest of us. Mm-hmm. And so we the coalition.
Et nous la coalition.
Of many countries.
De beaucoup de pays.
Stood up and did.
On s'est élevé et on a fait
done.
Et on a fait ce qui devait être
mm-hmm.
fait.
Now, as far as whether it's supporting the troops or supporting
Maintenant,
the war.
Maintenant, on appelle ça soutenir la guerre, soutenir
no
les troupes.
No one wants war.
Personne ne veut la guerre.
War,
je veux pas la guerre.
I'm gonna support my troops no matter who they are.
Mais je vais soutenir les troupes peu importe.
Est-ce que dans votre village de Bagdad ici 1500 habitants, il y a des gens qui sont contre la guerre?
I believe that it's a mix.
Je crois que c'est mélangé.
We had someone write on our church, no war.
Il y a même quelqu'un qui est venu écrire sur notre église, non à la guerre.
But we got it off.
on a repeint par-dessus.
C'est l'Amérique de la Bible ici.
Yes, absolutely.
Absolument.
You can't throw a stone without hitting a church.
Ici, vous pouvez pas jeter un caillou sans que ça tombe sur une église.
Go out the front door. You can hit one here. You walk to that one. You can throw another
one. Sors ici, vous allez en voir une, et puis vous continuez plus loin. Il y en a encore une autre.
Et pourquoi ça?
It was basically like being a mill town, and each denomination putting their own little church
here. Quand la ville industrielle s'est constituée, chaque dénomination a voulu être représentée. Les catholiques, les protestants.
C'est la concurrence.
Oh yeah.
Well, you have to understand one thing.
Il faut comprendre une chose.
As far as denominations go,
si on regarde les différentes dénominations,
a lot of them have one thing in common.
Toutes ont une chose en commun.
It's Jesus.
Jésus.
If they come offering any other gospel other than Jesus,
mais s'ils proposent n'importe quoi d'autre que Jésus,
call them false.
Ce sont des imposteurs.
Because there's only one way into heaven.
Parce qu'il y a une seule manière d'aller au paradis.
And that's through Jesus.
C'est Jésus.
Thank you all so much for coming. Hey, welcome to Baghdad, by
Thank
the way.
You.
You got the Baptist church over there.
Vous avez l'église baptiste
this is
là-bas.
Assembly of God church.
Ici,
the little Methodist church up the road.
L'église méthodiste est par là.
The full Pentecostal church up the road.
L'église pentecôtiste est tout au bout.
Church Christ around the corner.
Et il y en a une aussi au coin là.
Five churches right around here.
Il y en a cinq ne serait-ce que.
And actually, there is two other small churches
il y en a encore deux petites là-bas.
In the back community back here.
Et elles sont toutes au fond derrière.
Mais pourquoi vous choisissez cette église plus que l'autre, vous, par exemple?
I chose this one. It's not that I chose it. It's because
c'est pas que j'ai choisi. C'est Dieu.
Lead me here.
C'est Dieu qui m'a conduit ici.
For a work in the body of Christ.
Pour travailler dans l'esprit du Christ.
To be a light for those who are hurting.
Pour éclairer ceux qui souffrent.
Those that are sick.
Ceux qui sont malades.
Depressed.
Déprimés.
Despair.
Actually, we don't look at it as we chose the church. We look at it as where God puts us. God plants us to grow spiritually so that we can reach a lost and dying world for Christ. And we are here because this is where God wants us to be. God has planted us.
On est ici parce que c'est Dieu qui nous veut ici.
Amen.
Amen.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Merci à la famille d'Assaro, à Christine Walsh, à Guillemette Fort pour ses traductions, au pasteur de Bagdad et à Isabelle Richet. Et pour info, projection ce soir du documentaire Un voyage en Palestine de Samir Abdallah et José Reynès au cinéma Espace Saint-Michel à Paris. Le film sera suivi d'un débat avec Eliane Sambar, Elias Khoury, Bretten-Bretten-Bash, Somala Ibrahim et d'autres écrivains arabes. D'autres projections et débats jusqu'au 13 avril. Pour toutes les informations, vous pouvez aller sur le site écrivaindesfrontières.org. Et retour lundi 22 mars au studio de l'Ermitage de Nicolas Bacchus dans Elf, la pompe Afrique. C'est lundi à 19h30, 8 rue de l'Ermitage, Paris 20e. Montage Guy Van Til, technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, réalisation Antoine Chao, assisté de Koyen Guyen et Anne de Giaferi, chef du répondeur Christophe Imbert.